Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission. Club de la presse, vous savez que le rendez-vous, c'est chaque jour de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Et vous comprenez que nous y sommes. Et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Là où vous vous trouvez actuellement pour nous suivre les examens microbiologiques conjoints de l'aliment suspecté et de l'échantillon des selles reçus ont permis d'isoler concomitamment Escherichia coli, Bacillus, SPP et Clostridium, SPP, et aussi bien dans l'aliment que dans les selles, confirmant une toxi-infection alimentaire polybactérienne. Ce sont là un extrait des résultats de la situation d'intoxication alimentaire intervenue tout récemment à Kpetsu dans le Bamono. Au regard de ces résultats, Dr Wambo Afiwa Ouala Toko, directrice de l'INH, conclut à une intoxication alimentaire. Bref, les résultats des analyses microbiologiques indiquent une contamination massive et multimicrobienne du bouillon de sang suspecté et l'eau, probablement due à une hygiène défectueuse lors de la préparation ou au cours de la commercialisation. Nous allons aborder le sujet dans cette émission Club de la presse. Nous parlerons bien sûr d'autres sujets liés à l'actualité telle qu'évoquée par des journaux parus dans cette émission Club de la presse de ce mercredi 6 août 2025. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Akoutsa est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous, alors qu'ils nous suivaient partout au Togo, grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpami, Central FM, nous sommes à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Kouktouazi à Dapan. Et vous savez que vous avez ce privilège aussi de nous suivre partout dans le monde, grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénètes. Club de la presse, vous le savez bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi, du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi. Et Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
Et j'espère que vous allez bien.
Ça va, à part tout ce qui ne va pas, le reste, ça va.
Dieu merci, je suis vraiment très content de ce que je commence cette émission avec cette équipe qui est déjà au complet.
Oui, en fait, c'est une équipe dynamique et donc tu as quand même la chance d'avoir cette équipe avec toi.
Mais encore attends, pour les autres jours, c'est également une chance d'en avoir.
Mais la particularité, c'est que nous avons quand même une dame qui est très dynamique. Ce que les autres jours n'ont pas, donc c'est pas une envie, mais c'est une chance pour nous quand même.
Je suis parfaitement d'accord avec toi. Alors, c'est là le temps justement. Alors, c'est une pêche que vous avez lancée et rapidement, on va saluer la seule dame parmi nous. Et celle que nous avons, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à mes confrères au studio ici. Bonjour derrière la baie vitrée aux techniciens, et puis je n'oublie pas les auditeurs et les auditrices de Radio Canal FM. Je voudrais à l'entame de cette émission vous souhaiter un joyeux anniversaire.
Merci.
Vous savez, quand vous êtes à la tête d'un média au Togo, on sait dans quelles conditions on travaille et comment on arrive à joindre les deux bouts. Donc c'est pas du tout évident de maintenir ce média sur ce cap-là durant pratiquement 28 ans. Donc, félicitations au directeur. Je voudrais saluer également humblement tous mes devanciers, la maman d'Adédé, la grande sœur Patricia Dissikou, le rasta de la maison, je veux dire Yves Dossou Leblanc, oui. Et sans oublier Sas Gaou, celui même qui m'a permis d'intégrer cette émission, l'équipe de mercredi. Donc, félicitations à toute l'équipe. Maintenons le cap et croisons, resserrons les coudes pour faire avancer le monde médiatique au Togo.
Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir. Effectivement, vous avez parlé de Sas Gaou qui vous a fait intégrer justement à cette équipe à l'heure de mercredi. Il en parlait même hier dans l'émission Club de la Presse. C'est vrai, et Sylvestre également en a parlé. On a du mal quand même à avoir les femmes dans cette équipe. Moi, je me demande souvent, cela est dû à quoi, est-elle?
Il faut questionner les femmes.
Je
ne suis pas la
question.
Porte-parole des femmes. Je suis une femme, je suis d'accord, mais je ne suis pas la porte-parole des femmes au sein des médias. J'essaie humblement de jouer ma partition. Mais si on veut faire un peu plus sérieux, reconnaissons quand même que, puisque je suis dans la presse écrite, c'est la réalité que je maîtrise la mieux. La presse écrite au Togo est fortement masculinisée. Ça, il faut le reconnaître. Il y a une forte masculinisation de la presse écrite au Togo sur pratiquement la centaine de presse écrites qu'on a, disons la quatre-vingtaine ou disons, il n'y a que deux femmes qui sont directeurs de publication. Donc, vous voyez déjà que c'est pratiquement une jungle. Donc, il faut avoir vraiment la tête au vu parfois des certaines critiques et tout ce qui sont sûrs pour pouvoir vraiment affronter ces gros gaillards qui sont devant moi, les doyens, les
devanciers. Quand vous parlez de gros gaillards, vous vous tournez vers Sylvestre, qui ne sait
non,
pas.
Non, en fait, j'ai regardé tout le monde.
On les a accueillis à bras ouverts, sinon on pouvait.
Donc, c'est vraiment pas évident. Étant femme, tout de suite, il y a des clichés, des stéréotypes et tout ça là qu'on vous colle et tout. Il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour tenir. Et si, je crois, les femmes n'aiment pas trop le monde où il y a trop de rivalité, où il y a des clivages et tout, donc elles préfèrent rester dans leur camp. Mais quand on a l'occasion de le faire, je crois qu'il faut saisir la perche et se frayer également son chemin. Et c'est ce que peut-être celles qui se sentent capables font. Donc c'est l'occasion également de féliciter toutes ces dames-là qui travaillent au sein des médias, qui essaient d'apporter quand même leur voix pour la construction de la chose publique et d'encourager également celles qui voudraient bien emboîter le pas à se frayer leur chemin. Je me dis souvent, en toute modestie, je voudrais pas emboîter le pas de quelqu'un, mais je voulais également laisser mes traces. Donc,
je pense que c'est l'essentiel.
Petitement, essayons de construire ensemble la chose et permettez-nous également d'avoir notre voix au chapitre, tout simplement.
À votre profil, sur WhatsApp, je vois souvent quand même de l'aigle. Je pense que vous avez, vous voulez justement tracer votre ligne telle que vous l'avez dit, comme l'aigle. Merci, et surtout, et assez de courage pour cette bravo, ce courage que vous avez toujours à venir et à animer cette émission avec nous. Merci, puisque ça fait toujours plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup à vous, le plaisir est partagé.
Merci, et ça fait plaisir d'accueillir aussi le commandant. Bonjour, Abbas.
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
On rend grâce.
Mais cette fois-ci, vous parlez vraiment comme un commandant.
Bien sûr. Je parle comme un commandant parce que les choses semblent évoluer. Je vois les choses venir.
Ah bon?
Pour avoir mon grade de colonel.
Mais là, tu dois faire du temps possible pour nous informer. Attends, nous soyons aussi dans la même dynamique que toi.
Lorsque ça viendra, vous allez le savoir, parce que je ne veux pas devancer les événements.
Peut-être qu'il y aura une conférence de presse.
Je salue tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce moment, tous les confrères en studio, surtout notre seule dame qui nous tient compagnie. Il faut reconnaître que c'est le courage qu'elle a pour être dans la presse écrite. Parce que lorsque vous prenez la presse
écrite... Vous insistez sur la presse écrite.
Oui, c'est la presse écrite. Quand tout a commencé, c'est avec la presse écrite que ça a commencé avant que les radios n'arrivent, ne naissent. Donc, les gens, depuis là, avaient les stéréotypes de la presse écrite, surtout les femmes. elles ont mis ça en tête que c'est pour les hommes, la presse écrite. Et vous voyez, quand les radios sont arrivées par la suite, vous avez vu l'affluence aussi des femmes au niveau des radios. Mais pour la presse écrite, on n'en a pas vu jusqu'à cette évolution. Et lorsque ça a évolué jusqu'à ce jour, elle l'a dit tout à l'heure, on n'a que deux directeurs de publication qui sont des femmes. Il y a le directeur, celle qui gère le journal Dialogue, et celle qui gère la Gazelle. Donc, à part elle, on n'en trouve pas. Donc, vous voyez que c'est le courage qu'elle a pour prendre cette option de la presse écrite. Donc, moi, je veux la féliciter et par rapport à son courage, à sa volonté, à sa détermination qu'elle a dans notre corporation et au fait que depuis toujours, à chaque mercredi, on se retrouve ici pour le club de la presse. C'est une bonne chose.
Justement, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Abbas. Justin Anani, bonjour.
Bonjour, Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je suis un peu fatigué.
Mais ça se sent.
Ouais. Je salue d'abord les confrères, la consoeur, la seule d'ailleurs qui est parmi nous. Toute l'équipe de la technique.
Même étant fatigué, quand le devoir vous appelle, vous répondez. C'est,
ouais,
c'est ça aussi ce qui est bien.
Ouais. Nous avons également l'obligation de respecter les auditeurs parce que le rendez-vous de tous les mercredis, ils sont à l'écoute. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter joyeux anniversaire.
Merci.
Les uns et les autres l'ont dit déjà, je ne vais pas encore revenir là-dessus. Je disais tantôt que je suis fatigué parce que j'ai fait un tour dans le Vaud, passant par Togoville, au bas, mais j'ai emprunté la piste rurale. Ça fait que durant tout mon parcours, vraiment, je ne me retrouve pas.
Vous ne vous retrouvez pas?
Non, la piste rurale de Vaughan, au bas et autres là, vraiment, je ne sais pas.
Ouais, ça vous a donné justement de la fatigue?
Vraiment.
Mais ce qui est sûr, assez de courage. Mais je sais, c'est vrai que hier vous étiez même d'ailleurs avec nous pour l'émission publique avec nos amis alors du marché de Rancopé, ou si je dois bien utiliser le thème approprié, c'est le marché de le Togo. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens quand même qui étaient venus pour voir la manière dont nous faisons justement nos émissions en studio, et ça a été apprécié par les uns et les autres. Ce qui m'a marqué hier personnellement, c'est que j'ai vu des gens quand même qui nous ont approchés par après pour nous dire mais félicitations, ce que vous êtes en train de faire, nous vous suivons chaque jour. Il y a un certain Jean que je salue au passage, qui s'est approché alors de moi et me dit mais Pascal, j'ai cherché à vous connaître, j'étais au niveau alors du port, j'ai cherché à vous connaître et aujourd'hui je vous ai vu. Et ce qui a été significatif, il fait sortir un billet de 2000 francs et me dit c'est vrai, je n'ai grand chose à vous donner, mais je vous donne alors ce billet. Mais ça m'a fait chaud au cœur, hein, disons la vérité.
Oui, effectivement, beaucoup sont venus hier. Beaucoup sont venus hier qui ont cherché à nous connaître de visu. Nous sommes cachés derrière le micro ici, c'est la radio, c'est pas la télévision. Peu ceux-là sont ceux-là qui nous connaissent. Maintenant, beaucoup sont venus hier pour voir comment est-ce que nous animons d'abord les émissions en direct ici, et puis pas après, les techniciens, comment est-ce qu'ils s'attirent. Et quels sont ceux-là qui animent les émissions? Ils demandent des noms. Voilà, celui-là, il n'est pas venu aujourd'hui. Celle-là n'est pas venue aujourd'hui. Voilà. Et c'était vraiment une très belle occasion d'animer une émission à chaud avec le public. Oui. Et qui n'avait pas hésité à chaque instant peut-être d'applaudir. Parce que c'est pas... Et ça fait un bon moment que j'ai vécu une telle chaleur. Oui. Et hier, je l'ai encore vécu. Je dis d'abord bravo à cette initiative qui est prise à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de 8 ans pour une radio, pour un média. Estelle l'a dit tout à l'heure, c'est pas aisé au Togo. Et quand on sait les conditions dans lesquelles nous travaillons, vraiment, et c'est un peu difficile.
Mais maintenant, est-ce que ça veut dire que la radio a toujours sa place?
Ah oui.
De par le passé, on parlait même d'ailleurs de l'effet radio où les uns et les autres venaient pour connaître tel ou tel qui anime une telle émission.
La radio a toujours sa place. Quels que soient les médias nouveaux qui débarquent dans l'interno, ben, la radio a toujours sa place. Quoi qu'on dise, la radio a toujours sa place. C'est vrai que la télévision aujourd'hui est un peu bousculée par tout ce que nous avons sur le YouTube, par rapport à Internet, par rapport à WhatsApp, par rapport à TikTok, tout et tout. Mais la radio a toujours sa place et la radio, je crois, c'est un média qui ne va jamais disparaître, quoi qu'on dise. Donc c'est pourquoi je félicite encore ceux-là qui tiennent la direction des médias comme la radio de par le monde, notamment notre pays, le Togo, et dans les conditions aussi difficiles comme telles que je venais de les décrire. Je pense que il faut saluer tout ce monde-là. Il faut quand même nous saluer, vous saluer aussi. Et remercier également tout ce monde qui était là hier, comme vous venez de le dire, qui certains ont dit, bon, ok, on va vous payer à boire la bière, suivez-nous, patati patata. Mais on a décliné l'offre. On a décliné l'offre pour plusieurs raisons que vous maîtrisez très bien, parce qu'on ne sait pas qui est qui, et c'est l'occasion, donc il faut être vraiment prudent quand on est journaliste. Voilà.
Merci beaucoup. Pour la petite précision, peut-être par rapport à ta question, la radio reste à ce jour le média le plus écouté, le média de proximité, qui permet d'avoir une forte audience, de la mesurer en même temps et de permettre aux éditeurs d'avoir une interaction avec le plateau directement. Donc la radio a toujours sa place, bien évidemment.
Merci beaucoup, Estelle. Gadiel Tonadi, bonjour.
Pascal, bonjour.
Je sais que vous êtes un grand homme de la radio aussi, puisque vous avez fait des radios, j'allais dire. Quand on parle de la radio aujourd'hui, la radio a toujours sa place.
Absolument. La radio, c'est le média de cœur. C'est mon média de cœur. C'est vrai que j'avais à faire la radio. La radio a toujours sa place. Et nous avons eu la chance de connaître un peu Canal FM depuis sa naissance. Donc, joyeux anniversaire pour tout ce parcours-là. Je pense que les autres choses, on va le dire en off.
D'accord. Ce qui est sûr pour les émissions publiques, puisque c'est à l'occasion, alors, de cet anniversaire que nous organisons des émissions publiques. Et c'est chaque mardi de ce mois d'août. Et donc, dans les autres jours, déjà les mardis prochains, nous irons à Kakaveli et nous serons également dans le marché de Baie. Et nous allons clôturer avec le marché d'Anero. Ce serait toujours cette émission publique avec le grand public, pour connaître justement plus alors ce public et être plus proche alors de ce public. Et donc nous invitons les uns et les autres à répondre présents à cette rencontre. Alors, oui, Gazelle, si vous êtes avec nous, c'est parce que le journal Santé Éducation est dans les kiosques. Le journal, oui, vous avez abordé beaucoup de sujets ce matin. Et déjà, il y a ce titre qui m'intéresse bien. Vous écrivez 42% de la population mondiale meurt de faim. Et c'est une alerte ou du moins une information que vous voulez nous donner.
Oui, c'est suite au dernier rapport sur la faim dans le monde. En juin dernier, chaque 15 juin, c'est la journée internationale de lutte contre la faim. Et les rapports qui sont sortis dans les dernières semaines ne sont pas du tout bons pour la Terre entière, parce que la Terre regorge de ressources pour nourrir la population de la Terre. Mais plusieurs personnes ont faim. On parle de plus de 700 millions de personnes qui ont réellement faim. Et c'est un drame. Et les causes qui sont énumérées, c'est d'abord les conflits, le réchauffement climatique et puis les inégalités sociales. Alors, la faim, c'est un problème de santé publique parce que l'homme est amené à manger, l'homme est amené à consommer les aliments et c'est de ces aliments qu'il a les nutriments pour sa santé. Alors, quand un individu se lève, il ne mange pas, il ne va pas avoir la santé et il ne pourra pas vivre longtemps.
Mais il faut la disponibilité de cette nourriture d'abord.
Absolument. Donc, aujourd'hui, il y a de la nourriture. Dans certains pays, c'est un cas qu'ils ont reçu avant de rentrer dans le plein développement, parce qu'un pays ne peut pas se développer sans qu'il y ait de la nourriture pour la population. Donc, c'est un premier pas qu'il faut résoudre. Et les pays européens, en tout cas ces pays développés, l'ont fait. Donc, la faim aussi, c'est un problème de développement. Et donc, dans cet article, nous revenons sur les rapports qui sont faits dernièrement avec des recommandations qui sont faites aux différents pays. Mais il faut le dire que dans ces rapports, c'est dit que le gros du problème se trouve en Afrique. Hein. Beaucoup de personnes ont faim en Afrique. Et quel type de faim? Il y a un premier type, c'est qu'il y a des gens, quand ils se lèvent, ils n'ont rien à manger. Donc, peut-être ils seront obligés de commander, ou bien de voler, ou bien de ne pas du tout manger, de mourir de faim. Et puis, une deuxième catégorie, c'est des gens qui trouvent quelque chose à mettre sous la dent, mais ce plat n'est pas riche, ce n'est pas au complet. Donc, ça ne peut pas assurer leur santé.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas les nutriments nécessaires.
Il n'y a pas les nutriments nécessaires. Et là, on parle de la malnutrition, de la sous-alimentation. Donc, c'est un réel problème aujourd'hui. Et des recommandations sont faites au pouvoir public. En tout cas, je pense que les pouvoirs publics ont déjà ce genre de recommandations. Il faut agir contre la faim, parce que la faim, c'est un problème de santé et un problème de développement.
Mmh. Alors, autre titre, vous écrivez, vous parlez du don de sang et vous écrivez « Participation de la femme au don de sang ».
Oui, vous savez, Pascal, la femme, c'est un moment important dans nos sociétés. Et quand on fait toujours le comptage, on fait le recensement, on va dire, le genre féminin est toujours en tête. Hein, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est une réalité aujourd'hui. Mais il y a aussi un problème dans nos communautés, surtout en Afrique. Ce sont ces femmes-là qui décèdent suite à la grossesse parce qu'elles ont eu à faire une hémorragie. Et cette hémorragie, on n'arrive pas à la contrôler parce que très souvent, il n'y a pas de poche de sang pour traiter ces femmes. Donc, plusieurs meurent. Sur le plan international, on dit plus de 70 000 femmes qui meurent chaque 6 minutes et le gros se trouve en Afrique. Donc, c'est un drame. Et d'où il faut sensibiliser les femmes parce que elles sont plus nombreuses, mais on a l'impression qu'on ne les implique pas beaucoup, elles ne sont pas sensibilisées. Et dans plusieurs pays, les donneurs, il y a très peu de femmes, même au Togo, très peu de femmes. Si les femmes s'engageaient un peu, on pourra avoir cette autosuffisance au niveau des poches de sang. Donc, c'est un réel problème aujourd'hui au niveau de la santé publique. Et cet article, on le fait avec le concours du CNTS, le Centre National de Transfusion Sanguine, pour donner ce message aux femmes. Intéressez-vous, hein, sensibilisez nos femmes, nos sœurs, nos consœurs, hein, nos collègues à aller faire le don de sang. C'est très important parce que les femmes sont aussi les premières victimes quand on parle de manque de poche de sang.
Oui, d'accord. À la une alors du journal, c'est vrai, je lis hein, cet article aussi très intéressant, vous écrivez « Réduire la fréquence des urines la nuit ». Et là, vous nous donnez des recettes, ou une recette là pour réduire la fréquence des urines dans la nuit.
Absolument, la nuit c'est fait pour dormir. Hein. Et ceux qui dorment mieux, ce qu'on appelle un sommeil réparateur, quand vous vous couchez à 22 heures, vous vous réveillez à 4 heures, c'est bon. Vous faites un sommeil réparateur, ou bien on peut se réveiller une seule fois pour uriner, c'est bon. Mais il y en a qui vont jusqu'à 5, au-delà de 6 fois, et cela perturbe le sommeil. Et très souvent, ces personnes n'ont pas la santé, parce que quand vous ne dormez pas suffisamment, parce que vous comprenez que la santé sera fragile. Et il y a plusieurs causes, hein, ce qui fait que les gens urinent beaucoup. Donc, s'il y a des gens qui vont au-delà d'une fois, deux fois, trois fois, et chaque nuit pratiquement, qui se lèvent pour uriner, ils doivent aller consulter. Alors, sûrement que c'est un signe par rapport à une pathologie. Donc, les premières causes, c'est les pathologies. Mais il y a des gens qui n'ont pas un bon comportement par rapport aux boissons. Ils boivent un peu tout. À tout moment, ils peuvent prendre le café aussi, ou bien beaucoup d'eau, ou bien beaucoup de boissons pendant la nuit. Ça peut vous amener à vous lever plusieurs fois pour dormir, pour uriner, je veux dire. Donc, dans cet article, c'est un article qui nous dit, hein, cette pratique, soit alimentaire, soit au niveau de l'hygiène de vie, pour réduire les fréquences d'urine la nuit. C'est très important. On ne va plus faire plus de commentaires par rapport à ça. C'est un article que nous recommandons à tout le monde, à tous ceux qui se sentent en tout cas dans ce cas-là.
D'accord. Il y a un article très important que vous recommandez. Autre article que vous aurez certainement recommandé à tout le monde aujourd'hui, c'est parce que nous sommes justement alors dans la mousson. La mousson, et avec ce vent, ça fait tellement frais, et il fait froid, j'allais dire. Et vous écrivez « Froid de la mousson, aliments et recettes à privilégier ». Et quels sont peut-être alors ces aliments à privilégier, parce que nous sentons tous ensemble alors le froid.
Oui, vous savez, le froid, il fait froid à la mousson, là. Et puis, c'est un moment où beaucoup, en tout cas, il y a certaines personnes qui sont très fragiles, les personnes âgées, les tout petits, ceux qui sont malades. Donc, il y a un certain nombre de maladies qui, pendant la fraîcheur, c'est des gens qui souffrent beaucoup. Et il faut, vous savez, la fraîcheur, c'est une nouvelle saison. Il faut aussi varier. Il faut aussi avoir l'information sur les aliments qu'on doit consommer. Et très souvent, on ne le sait pas et on va vers les aliments qui vont plutôt nous mettre dans le froid. Donc, il faut aller vers des aliments et des recettes qui vont nous permettre d'abord de réchauffer le corps, hein, et puis de renforcer l'immunité, parce que c'est une période pendant laquelle l'immunité est mise à rude épreuve, hein, parce que beaucoup d'agents pathogènes qui circulent, qui aiment le froid, les virus, les bactéries par-ci, par-là. Donc, c'est très important pendant le froid de revoir notre alimentation, d'insérer certaines recettes. Dans cet article, il y a certaines recettes. Nous allons partir, nous allons parler plutôt des thés, hein. Il y a certains thés. Aujourd'hui, on doit boire un peu plus chaud, hein. C'est une bonne pratique pendant la fraîcheur. Il faut boire un peu plus chaud, ne pas aller vers des boissons très fraîches. Il y en a qui ont cette philosophie, qui disent que c'est pendant la fraîcheur qu'on prend ce qui est frais. Mais au mieux, il faut prendre ce qui est chaud, hein. Des thés chauds, thés de citronné, par exemple, chaud, hein. Thé de menthe, poivré chaud. Donc, cela réchauffe l'organisme et cela participe à renforcer l'immunité. En tout cas, un article important aussi pour tout le monde à lire. Et puis, beaucoup de recettes à mettre en pratique.
D'accord. Et tous ces articles, justement, sont dans votre journal Santé et Éducation, paru alors aujourd'hui. Et quelles sont les conditions pour avoir le journal?
Nous appelons les gens à aller télécharger le journal numérique sur le site internet www.santeeducation.tga500.
Gazel, sans transition, je reste justement avec vous par rapport à ce sujet. Vous vous souvenez quand même que nous avons discuté du sujet alors de Pétou. On parlait de l'intoxication alimentaire dans ce studio quand l'événement ou la situation battait son plein de l'autre côté à Pétou dans le Bas-Mono. Et nous avons appris également qu'il y a eu des prélèvements et que les résultats sortiront par l'INH, et effectivement les résultats sont sortis. J'en parlais même en début alors de cette émission, et on comprend tout simplement que les résultats des analyses microbiologiques indiquent une contamination massive et multimicrobienne du bouillon de sang suspecté et l'eau, et probablement due à une hygiène défectueuse lors de la préparation ou au cours de la commercialisation. Alors là, on pourra dire que on en sait un peu plus aujourd'hui sur cette situation qui s'est produite à Pétou.
Oui, si les rapports des diagnostics le disent ainsi, donc c'est une intoxication alimentaire. Je pense qu'il y a de cela 8 jours, on en parlait ici, que c'est des phénomènes qui arrivent un peu partout. Même ça peut arriver dans une maison. Quand vous allez sur le marché, vous prenez un produit qui est déjà infecté. Quand vous arrivez à la maison, si ça n'est pas bien manipulé, bien préparé, pouvez vous infecter. Donc c'est ce qui est sûrement arrivé selon le diagnostic. Donc attention, dans cette parution, nous publions un article sur comment éviter les intoxications alimentaires. C'est très important. Et on met plus l'accent sur l'hygiène alimentaire, hein, l'hygiène alimentaire, et surtout pour certains produits comme la viande, hein. Aujourd'hui, on recommande de prendre des viandes qui sortent des abattoirs certifiés, et des viandes qui ont une certification, donc qui prouvent que ces viandes ont été diagnostiquées et qui n'ont pas de pathogènes pour être consommées. Alors, on sait qu'il y a beaucoup aussi le marché noir des viandes qui circule, et au niveau des restaurants, on affectionne ce genre de viande, ce genre de poisson. Attention, Donc, l'hygiène alimentaire, c'est très important. Même nous-mêmes, quand nous achetons quelque chose au marché, nous arrivons à la maison, il faut appliquer l'hygiène avant que le plat préparé ne sorte dans l'assiette pour la consommation. Et dans ces temps aussi, on conseille de manger chaud. Manger les plats, les aliments chauds. Hein. Quand c'est chaud, cela est mieux que, par exemple, cet aliment qui a été consommé là-bas, sûrement que c'est frais, ce n'est pas chaud. Si c'est chaud, peut-être que cela va réduire un peu la vitesse de contamination. En tout cas, c'est des conseils qu'on donne dans cet article. Comment éviter les intoxications alimentaires? C'est l'hygiène alimentaire qui est mise sur la liste, en tout cas.
Et est-ce que c'est vrai qu'on en sait un peu plus sur cette question d'intoxication alimentaire à Pétou? Et c'est vrai que dans nos analyses, on a élaboré un certain nombre alors de pistes à explorer pour avoir concrètement ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, l'INH nous fait signifier quand même exactement ce qui s'est passé. Et là, on parle justement alors d'intoxication alimentaire et c'est une contamination, et on parle de polybactérienne, bien sûr, une contamination polybactérienne.
Oui, en réalité, c'est ce que nous avons pris, donc nous avons appris, pardon. Et donc, la thèse de l'empoisonnement est vite écartée. Maintenant, je crois que c'est aussi trop simple hein, de parler donc de polybactérienne. Bactériennes, déjà quand on parle de poly, on parle de poly, il y a déjà plusieurs qui
parce est dans poly. On parle d'une toxi-infection alimentaire polybactérienne.
Mais est-ce qu'on peut parler au-delà pour être un peu plus spécifique? Quel est l'agent pathogène? Qu'est-ce qui c'est réellement? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu généralisé. Bon, c'est des bactéries, c'est des microbes, et puis bon, basta.
Mais non, c'est vrai que dans la publication, on a cité quand même un certain nombre de bactéries hein, qui étaient à la base alors de cela. Bon, on parlait de Escherichia, coli, Bacillus, SPP. Là, c'est bien compliqué.
Voilà, je crois que tu c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué, vous savez. On parle donc de Pétou, hein, on parle de Pétou, et puis bon. Vous allez chez le chef donc du village ou le chef canton et puis vous lui dites, vous voyez, tout ce qui s'est passé, c'est... Ouais, redonnez-moi les choses.
C'est quoi?
Escherichia. Le monsieur vous renvoie. Il va vous dire c'est quoi? Le monsieur vous renvoie. Vous voyez? Donc je crois que devant ce genre de situation, il faut trouver donc des termes, le choix des termes, la communication et tout ça. Ouais, vous allez au village de Pétou et puis vous leur dites, bon, ce que vous avez consommé, c'est Chéricha. Bon, finalement, ils vont dire, non, on a dit qu'on a pris Chicha. Parce que, vous voyez, donc il y a tellement, donc, je crois qu'on pourrait aller un peu plus loin pour, à travers cela, sensibiliser les personnes, leur dire spécifiquement l'agent pathogène, vous voyez, vous avez pris ceci, c'est en fait cet agent pathogène qui était à l'origine, donc, désormais éviter ces genres de situations. Maintenant, voilà quoi. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ça repose également le problème donc de nos infrastructures, des unités sanitaires et tout ça. Bon, voilà. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec tout ça? Qu'est-ce que je vais dire? Il faut essayer donc de diluer la chose. Vous voyez quand. Et Gadiel vient, parfois il donne le nom scientifique et puis il donne le thème approprié en éveil parfois ici pour que les gens puissent apprécier ce qu'il dit. Voyez-vous, il vient, il dit, il donne le nom scientifique et tout ça, mais il donne et là je parle de ESSO et tout ça, il le dit ici très souvent pour que le Togolais lambda, celui qui n'a pas fréquenté, qui s'est juste arrêté peut-être au CE1 puisse comprendre ce qu'il dit, le message qu'il passe. Maintenant, vous allez dans un village et vous citez tous ces trucs-là. Bon, ils vont faire quoi avec?
D'accord. Alors, c'est vrai que ce que moi je n'ai pas compris, justement, alors dans cette histoire ou dans cette situation, c'est qu'il y a des gens qui ont consommé cela, ont consommé le même repas, mais qui n'ont pas eu le même souci.
Oui, mais Sylvestre, est-ce que tu peux donner le nom d'un microbe en mineur?
ça.
Si tu as le nom d'un microbe, voilà. Amina, ou dans une autre langue même, maternelle, au Togo.
Même le nom microbe, Amina.
Même le nom microbe. Non, ça, c'était juste une petite parenthèse. Alors, et permettez-moi de revenir un peu sur ce que j'ai lu concernant la publication des résultats des analyses. Mm. Oui, généralement, on peut dire que c'est une intoxication. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a cité des microbes et tout ce qui s'ensuit. C'est tellement technique, c'est des noms scientifiques que bon, on garde juste que c'est une intoxication alimentaire. Mais comme le disait Sylvestre, il y a une partie des analyses qui a été confiée en fait à l'université de Lomé, mmh, dont les résultats ne sont pas encore sortis, donc ça permettra peut-être d'avoir plus de précision et de détails sur le type d'infection et ce qui en est véritablement la cause. Mais au-delà de ça également, j'ai lu dans les résultats que l'eau qui a servi à la préparation également a été analysée et on y a découvert également des microbes.
Tout à fait.
Donc, ceci pose en fait le problème d'eau potable en fait dans les contrées, justement dans le milieu par exemple. Donc, il faut prendre également les dispositions à partir de ces résultats-là qui sont sortis ou les résultats prochains également qui sortiront de l'analyse de l'université de Lomé. Je crois qu'il va falloir tirer les conclusions et mettre en fait des dispositions et prendre des dispositions qui permettent de contrer ces éventualités ou ce type d'événements malheureux à l'avenir. C'est-à-dire quand une situation se produit, on analyse, on tire les conclusions et on prend les précautions pour que ça ne se reproduise plus à l'avenir. La dernière fois, on évoquait déjà des services d'hygiène qui existaient par le passé. Il faut réfléchir à une sorte de police sanitaire, en quelque sorte, si je peux l'appeler ainsi, pour contrôler les éléments à la base, puisque c'est une question de santé publique. Mine de rien, on a perdu, disons, 2-4 personnes la fois passée sur cette intoxication-là, et des malades, ça fait des dépenses. D'abord, même si c'est l'État qui les a pris en compte, ça fait des dépenses quand même pour l'État. C'est des situations qu'on aurait pu éviter. Donc, vous voyez un peu, se focaliser sur ces résultats-là et trouver des solutions pour vraiment contrôler les produits de consommation, les mets qui sont déjà préparés, qui sont prêts à être consommés. S'il faut une police sanitaire, il faut réfléchir là-dessus. Maintenant, revenons à ta question. Mmh. Oui, c'est un peu curieux, puisque le mets a été consommé par certains qui n'ont pas eu de soucis, et ça, d'autres, voilà, y compris même celle qui a préparé avec sa famille, mais qui n'a jusqu'alors manifesté aucun problème. Et des gens ont consommé ce mets-là dans la matinée, l'après-midi, rien ne s'est posé comme souci. Et c'est à partir de 20 heures que ceux qui en ont consommé ont eu des problèmes de santé. Donc, c'est un peu l'intrigue qu'il fallait dénicher. Mais comme les résultats le disent, c'est une analyse globale qui a été faite. Et maintenant, on ne sait pas si c'est les mets consommés à partir de 20 heures qui ont été analysés. Est-ce qu'entre-temps, quelque chose a dû se passer qui a échappé à un œil vigilant ou qu'est-ce que c'est? Je crois qu'il y a toujours de l'intrigue là-bas qu'il faut repérer. Mais l'essentiel, c'est de prendre en fait les dispositions pour éviter ce genre d'événements malheureux à l'avenir au niveau de notre société, de nos communautés.
D'accord. Abbas, quelles leçons devons-nous tirer de ce fait?
Beaucoup de leçons, parce que quand vous prenez cette analyse qui a été faite, on nous dit que, à part le bouillon qui a été analysé, il y a aussi l'eau qui a servi à préparer ce bouillon-là, qui a été aussi analysé. On a trouvé des bactéries dans cette eau. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut voir, il faut savoir reconnaître que dans ces localités, il n'y a pas ce qu'on appelle une eau potable. Et quand vous n'avez pas d'eau potable, vous allez puiser l'eau dans les rivières pour venir faire des préparations. Il faut les chauffer très bien pour tuer ces microbes. Aujourd'hui, on nous parle de certaines bactéries scientifiques et que nous ne connaissons pas. Il fallait aller terre à terre pour bien expliquer ces termes-là. Parce que vous vous adressez à un public qui ne comprend pas le langage des médecins. Il faut expliquer ça terre à terre. Encore que les choses sont passées dans un village. On attend maintenant. On dit qu'il y aura des analyses complémentaires et supplémentaires qui vont être faites à l'université. C'est le bouillon seul qui a été envoyé là-bas. Une partie du bouillon a été envoyé pour des analyses par le service biologique médical de l'université pour détecter. Là, ils ont parlé encore de toxicologie qu'il faut voir. Donc, on attend. Parce que par rapport à ça, il faudrait qu'on prenne des dispositions. Vérifier, et celle a dit tout à l'heure, on n'a pas de sama-sama. Avant, on les appelle les sama-sama, les tankas.
Les tankas.
On n'en a plus. On n'en a plus. Donc, aujourd'hui, qu'on a fait la décentralisation, il faudrait qu'au niveau des mairies de chaque commune, on puisse avoir ces gens de surveillants qui font le devoir, le travail de vérifier ce que l'homme va manger, ce qui va rentrer dans le ventre de l'homme. Donc, il faudrait avoir tout ça là, parce que sans ça, on va continuer par avancer, parce que ce ne sont pas toutes les localités qui ont de l'eau potable. Et dans cette localité, surtout avec la consommation de ce bouillon oumbli, il faut faire aussi des très attention. Je suis sûr que ce n'est pas la première fois que les gens mangent ça là-bas. De tout temps, ils ont mangé. Toutes les nuits. Mais aujourd'hui, on dit que c'est à partir de ceux qui ont consommé à partir de 20 heures qui ont eu des problèmes. Et que ceux qui ont consommé avant 20 heures, ils ne ressentent rien. Même celle qui a préparé jusqu'à présent, j'espère, il paraît qu'elle a toujours écouté à la gendarmerie. Est-ce qu'elle a eu un signe qui l'a perturbé, qu'elle a des maux de ventre ou une intoxication? Donc, il faut aller plus loin. À part les analyses qui sont faites ici et là, on doit encore aller plus loin. Parce que la dernière fois, nous avons dit que ça peut arriver que des envieux lui auraient mis quelque chose dans le bouillon là pour servir de vente. Donc aujourd'hui, il faut chercher.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment aussi une enquête judiciaire?
Il faut une enquête judiciaire, il faut ouvrir une enquête judiciaire par rapport à ça. Quels sont ceux qui étaient là au marché? Élargir tout ça. Si on dit on veut faire une enquête, on ne peut pas s'arrêter aux analyses parce que c'est des vies humaines qui sont parties. C'est des gens qui sont actuellement à l'hôpital en train d'être soignés. Même si l'État a mis des moyens pour les soigner, et c'est là dit tout à l'heure, c'est l'argent du contribuable togolais. Donc il faut éviter tout ça à l'avenir.
D'accord.
Faire de telle sorte que on n'ait pas ces genres de situations qui vont compliquer la vie des populations.
D'accord. Il y a une source au niveau du ministère de la Santé qui nous dit que ce document ne donne que le résultat primaire. Il s'agit des salmonelles. Et les investigations se poursuivent et on attend les résultats des autres sites de recherche comme l'Université de Lomé pour tirer les conclusions finales. Je pense que Estelle l'a dit tout de suite. Et oui, Justin, c'est vrai que ce qui constitue encore l'intrigue, c'est que la dame vendait cela, elle se produit dans le marché il y a pratiquement 2 ans. Et on n'a jamais eu alors de ces cas, mais cette fois-ci, on nous dit que non, il y a eu alors de ces contaminations, mais c'est surprenant.
Oui. Bon, sur la base du résultat, c'est pas provisoire.
Mais je dis surprenant parce que peut-être que c'est dans les mêmes conditions que la dame a toujours préparé.
Oui, les scientifiques vous diront que ça peut arriver. Les scientifiques vous diront que ça peut arriver. Les informations que nous avons de l'autre côté du Bas-Monon confirment bel et bien qu'aujourd'hui, il y a eu 2 morts et un des malades a été transporté à Lomé.
Donc ce n'est pas 4.
Non, ce n'est pas 4. Et aux dernières nouvelles, il se murmure que cette victime aussi serait décédée. Voilà, c'est ce que les informations que moi j'ai eues ce matin.
Qui les a confirmées.
Qui les a confirmées, justement. C'est pourquoi vous avez utilisé le conditionnel.
Tout à fait. Maintenant, dans la zone, 2 sont décédés, officiellement. À ce jour, il y a plus de patients à l'hôpital de Saint-Jean d'Afagnan. Maintenant, les résultats qui sont publiés là, provisoires bien sûr, avant la dernière conclusion de cette enquête, scientifiquement démontrent que ce qui se dit dans le village, comme quoi c'est la queue-pousse de la dame qui a empoisonné.
Qui aurait.
Qui, bon, il y a une confirmation dans la zone, ce qui se dit dans la zone.
Qui, a
qui aurait.
Qui aurait. Qui aurait empoisonné le mets. Et que ceux-là qui l'ont consommé, par après, bon, sont tombés malades, il y a eu des décès. Donc, dans l'intention de faire mal, c'est ce qui se dit. Maintenant, sur la base de ces résultats-là, ça voudrait dire que la thèse de l'empoisonnement est écartée. C'est-à-dire qu'on peut aller maintenant...
Pour l'heure.
Pour l'heure. On peut aller, comme voit le chef, enlever les thèmes scientifiques là, pour lui dire que voilà, que on donne nous noir maintenant Mouyolo, Kingbori, voilà. Comme ça, les gens peuvent comprendre en attendant. Et le temps de ne pas aller dans le sens de l'échange systématique sur la dame qui vend ses mets là habituellement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et que certains ont mangé à une période donnée, dans la même journée, et qu'après 20 heures, les gens ont consommé, et que ces mets-là sont maintenant intoxiqués. Bon, l'intoxication alimentaire, on vous dira que ça peut arriver à tout moment, à tout bout de champ, tout comme les microbes, les bactéries que nous avons l'habitude de lire, comme on a l'habitude de lire dans les recherches. Maintenant, quelle conclusion maintenant donner pour rassurer? Parce que la dame est toujours dans les mains de la gendarmerie pour sa protection.
Pour sa sécurité.
Pour sa sécurité. Mmh. On nous dit les enquêtes se poursuivent. Il y a une partie des enquêtes, enfin des résultats qui vont sortir de l'université de Lomé. Bon, la suite, comment est-ce qu'on va gérer et ce problème-là? En dehors de tout ce qu'on peut supputer sur le même dossier, moi je pense que c'est le problème de la santé publique qui est posé. Et je dis que c'est parce que ça s'est passé dans le canton de Pétou, dans le Bas-Monou, et que tel que ça a meurté l'opinion, et on en parle, ça devient maintenant un sujet d'actualité. Dans les coins les plus reculés, les populations se discutent de l'eau à boire avec les animaux, après 65 ans d'indépendance. Donc je pense que là, on doit quand même réfléchir à mettre le prix par rapport à la gouvernance. Et c'est le problème ou la problématique même de la gouvernance du pays qui est également posée. Qu'on le veuille ou non, la réalité est là. Ceux-là qui ont eu à gouverner le pays ont connu des échecs. Il faut quand même en tirer toutes les conclusions.
Merci, Gessin. Oui, Gazelle.
Oui, vous savez, c'est un ordre scientifique que vous venez de donner par rapport au diagnostic. C'est ce genre de bactéries ou bien d'agents pathogènes. C'est des choses avec lesquelles nous vivons tout le temps. On vit avec ces agents pathogènes-là. Que cela ne soit pas surprenant. On vit avec eux. Et moi, je veux seulement faire deux hypothèses. C'est des hypothèses. Hein. Quand on dit à un moment donné, les gens en ont consommé avant, et c'est à un moment donné que dans la nuit, que ceux qui ont consommé ont été contaminés. Il se pourrait que la revendeuse a fait propre son travail, comme on peut le dire en français banal, et que c'est peut-être un acheteur qui est venu avec la manipulation en vendant, puis si on prend l'argent de la main, on manipule tout ça là, que la contamination a commencé et qu'à une heure donnée, la prolifération de cet aliment a atteint un niveau qui puisse contaminer les gens.
C'est aussi possible.
C'est aussi possible. Ou bien, il y a des gens qui ont consommé, ils ne sont pas tombés malades. Pourquoi? Parce que leur système immunitaire est arrivé à neutraliser cet agent pathogène. Donc, il y a plusieurs hypothèses. Donc, ce n'est pas quelque chose de très extraordinaire. Mais on attend quand même les résultats de l'université pour avoir en tout cas une synthèse assez claire de cette situation.
D'accord. Alors, on va quitter le sujet. On s'intéresse à un autre sujet.
Pourvu qu'à l'université, ce ne soit pas des enquêtes en cours.
D'accord, ok. Ce qui est sûr, nous attendons les autres résultats des autres sites de recherche. Nous abordons un autre sujet et c'est ce sujet de l'intervention des ministres à l'international, bien sûr, puisque beaucoup de journaux sont revenus sur le sujet aujourd'hui. Sylvestre, la manchette est revenue sur le sujet. Vous écrivez les suites de TV5 Monde. Paco Maduro vit la risée. C'est ce que vous écrivez par rapport à cette intervention du ministre des Droits de l'Homme sur les différentes chaînes internationales. Il n'est pas seul, justement, il était avec d'autres ministres et aussi un acteur de la société civile. Alors on dit, oui, pourquoi vous qualifiez cela de risée, Sébastien?
Non, écoutez, quand on parle de risée, on parle donc de moquerie collective. Et c'est ce que nous avions vu après le passage donc du ministre Djourovi sur les chaînes françaises, d'abord France 24 et puis TV5 Monde. C'est au niveau de TV5 Monde que beaucoup, pour peut-être être un peu bas, que les choses ont gâté, parce que c'est là où le ministre n'a véritablement pas été à la hauteur, parce qu'il a été véritablement mangé par, par la journaliste. À un moment donné, on le trouvait un peu, la situation s'est devenue un peu difficile. Il peinait même à trouver ses verbes et tout. Et cela a suscité une forme donc de moquerie collective. Chacun y va donc de ce commentaire. Encore que lorsque vous voyez le ministre, c'est un avocat de formation. Et généralement, quand on parle d'avocat, on parle donc de la crème, hein, de l'élite intellectuelle. Un avocat doit avoir
la rhétorique.
Un avocat doit avoir la rhétorique, il doit convaincre et tout. Mais la dernière fois, le ministre Djourovi a laissé beaucoup donc de personnes sur leur faim, et puis bon voilà, et nous sommes revenus sur ça, et certains ont cité Boileau, hein, en disant que tout ce qui se conçoit, vous voyez, donc c'est à vous de terminer. Et donc beaucoup disent que c'est parce que ce qu'il a rencontré sur TV5 n'était pas la vérité, c'est pourquoi il peinait à trouver ces mots pour convaincre, et donc nous sommes revenus sur cela. Certains sont même allés plus loin en disant qu'il n'a pas quand même cette conviction de ce qu'il défend, et donc il faudrait que le chef de l'État puisse en tirer les conséquences de son passage. Donc voilà, les Togolais, chacun y est quand même allé donc de son commentaire. Nous avons fait un cocktail de quelques réactions sur son passage, et puis bon voilà quoi. D'accord. Il revient donc à l'homme de tirer toutes les conclusions, et s'il faut refaire le même exercice, il faudrait quand même qu'il puisse déjà commencer à s'entraîner.
D'accord. C'est vrai, hier c'est le journal Le Médium qui titrait la communication politique un art. Et là, est-ce que ça veut dire que déjà, pour ce qui concerne la communication en soi, en général, justement, on le sait, c'est un art, et la communication politique doit être également cet art-là qu'on doit apprendre et les essais comme cela se doit.
Et bien évidemment, comme l'a titré le confrère, la communication politique, c'est tout un art. Alors, quand je prends un peu l'intervention dans son ensemble, disons que nous sommes dans le cadre d'une communication institutionnelle, puisque c'est un membre du gouvernement. Nous sommes en communication politique.
Communication gouvernementale.
Et nous sommes en communication de crise. Vous voyez un peu la gradation, communication institutionnelle, communication politique, communication de crise. Alors, sur ce type de communication, il n'y a pas d'improvisation. C'est-à-dire que tous les détails sont préparés. Que ce soit le discours, les mots choisis, la posture, les mimiques, la gestuelle, l'expression du visage. Tout est millimétré pour la communication de crise. Loin de moi, l'idée de faire un cours de communication politique ou quoi que ce soit. Et mais sur ce coup, on a senti un peu. Moi, l'analyse personnelle que j'ai faite de la situation, j'ai comme impression que le communicant avait un discours qui était bien préparé, sauf que quand il est arrivé, nous sommes dans le cadre d'une interview. Même si un protocole est envoyé en amont sur le plateau, il y a des relances qu'on peut faire et qui peuvent perturber en fait le cours du discours préétabli. J'ai comme impression que c'est ce qui s'est passé en fait avec le communicant. Si vous analysez bien la première question qui lui a été posée par la journaliste, il a essayé de planter d'abord le décor avant de revenir sur la question. Je crois que c'est son discours qui a été préparé en amont qu'il déroulait. Pendant que la journaliste voit la relance, et puis il a perdu le fil, et c'est là que tout est parti un peu en vrille. Ça reste une observation personnelle que je fais par rapport à en fait, ma petite expérience de journaliste.
Je ne pas partager cette observation.
Mais je ne sais pas. Je ne sais pas trop. C'est l'analyse que je fais de la situation. Mais pour ce genre d'exercice, comment on le fait? Nous sommes sur un média international où, après tout, c'est l'image du Togo également qui est en jeu. Hein. Faut le soulever également. C'est l'image. Quand on envoie un émissaire du gouvernement pour une communication du genre, on se dit, et ça fait partie en fait de l'élite du gouvernement togolais. Du coup, c'est l'image du Togo également qui est en jeu. Et à l'avenir, je crois qu'il faut peut-être mieux se préparer et pour gérer ces genres de choses. Donc, c'est la communication, c'est déjà passé. Mais il faut toujours de ces situations également pour comprendre mieux certaines situations et mieux se préparer à d'autres éventualités. Donc, beaucoup de courage aux différents intervenants qui se préparent pour mieux faire les prochaines fois.
Mmh. Oui, alors c'est vrai que beaucoup se disaient, mais comment se fait-il que le gouvernement n'a pas envoyé soit le porte-parole alors de ce gouvernement ou le ministre de la communication, la ministre de la communication. Mais est-ce que ça veut dire que l'exercice a été très difficile alors pour Paco Mandrouvi?
En principe, ça ne devait pas être difficile pour lui puisque la communication officielle a été déjà faite ici devant les ambassadeurs et en face de la presse également. Donc c'est une communication de crise puisqu'on parlait des événements des 6, 26, 27, 28 juin dernier. Donc cette communication, c'est que on sait, on connaît la position du gouvernement là-dessus. Et c'est cette position-là que le ministre Adjovi est allé pour défendre en tant que ministre des Droits de l'Homme également. Elle est partie, il a donné la version, mais seulement peut-être que, comme on le dit, c'est l'art de communiquer qui a manqué. Parce que quand vous êtes dans ce genre de situation, il faut être également habitué aux médias. Il faut être un habitué des médias, un habitué des interviews pour que, quelles que soient les situations, même si le protocole est déjà envoyé et préparé, c'est qu'il faut savoir que lorsque on vous pose une question, le journaliste est là, lui cherche des failles et il relance. Et lorsqu'il relance et vous ne vous maîtrisez pas, vous allez passer à côté. Donc, dans ce genre de situation, il faut que les gens se préparent beaucoup pour dire que lorsque nous allons faire cette intervention, lorsque nous allons devant un média pour faire une interview, qu'on s'attende à ce que le journaliste pose des questions qui vont même fâcher. Donc, quand on est préparé comme ça, on ne va pas perdre le fil de ce qu'on est en train de faire. Et pour l'image du pays, il faudrait que pour la prochaine fois, on puisse faire un exercice correct. Parce que moi, je me dis que une situation de crise que nous avons vécue et que les explications, les mêmes qui sont allées pour donner au niveau de TVCN, les mêmes explications ont déjà été données auprès des diplomates togolais. Et les mêmes explications, même les journalistes togolais à l'hôtel Saraka aussi, on lui a posé des questions sur ces explications. Donc, il fallait se préparer en conséquence pour ne pas rater la sortie. Donc, c'est là que je dis que il faut...
Mais est-ce que ça a été une sortie ratée?
Ce n'est pas raté parce que le message était passé.
Et vous y croyez?
À moi, c'est le message qu'on allait passer là. On allait parler de la crise. Pour moi, le message est passé.
D'accord. Je sais, est-ce que vous avez aussi l'impression que le message est passé?
Non, le message n'est pas passé. Il y a un adage qui dit, et j'ai l'habitude de répéter ça ici, qu'on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Et la lune brille, mais c'est le soleil qui éclaire. Et j'ai l'impression que nos gouvernants ont tendance à faire croire aux gens comme si nous sommes dans les années 1990. Non. Nous sommes à l'ère des TIC. Donc lorsque vous voulez communiquer, il y a un certain nombre de facteurs qui sont vraiment prépondérants. Les uns et les autres l'ont dit, je ne vais pas arriver là-dessus. Maintenant, pour ce qui concerne la démarche, c'est pour aller polir l'image du Togo à l'extérieur. Pour dire, tout ce qui s'est passé, vous avez vu là, c'est du fake.
Puisque c'est une forme de communication.
Oui, c'est-à-dire que c'est, l'objectif, c'est aller dire à la communauté internationale, notamment la France, où les députés sont debout contre le régime de Faure Gnassingbé, qui s'est présenté toujours comme un régime salutaire. Les Togolais ont adhéré, les Togolais ont applaudi, les Togolais votent pour le même parti, malgré leur situation. Et que voilà, c'est les Togolais même qui ont voulu qu'on soit dans la 5e République. L'initiative, c'est d'aller redorer blason à ces gens-là comme quoi au Togo il ne s'est rien passé. Voilà, c'est l'insurrection qui est lancée, tu es tout. Sauf que les périodes dans lesquelles se passaient ces événements-là, et ça allait très vite. Ça fait que pratiquement les gens ont le même degré d'information que nous qui sommes ici au Togo. Donc c'est difficile de dire à un journaliste, à une journaliste, comme quoi il n'y a pas eu de miliciens sortis dans les rues, tabasser les gens, rentrer dans les maisons. Il n'y a pas eu des agressions sauvages. Sur ces éléments-là, la journaliste aura certainement des questions à vous poser. Maintenant, je dis que les trois qui sont partis, j'ai l'impression qu'ils ont choisi les mauvais médias.
Comment ça?
Puisque France 24 a eu à interroger Amron sur le cas de torture. La journaliste est revenue là-dessus. Et Africa, comment on appelle, TV5 Monde, est revenue sur les cas des agressions qu'on a eu à observer.
Et même sa correspondante ici a eu des soucis.
A eu des informations. Et moi, les gens nous ont demandé d'avoir des informations sur un certain nombre de choses. Donc, nous les avons envoyées au niveau des droits de l'homme. Les gens ont eu des informations. C'est sur la base de ces informations-là. Du fait que même le gouvernement togolais qui a demandé a passé son message pour embellir l'image de Faure Gnassingbé, l'image du Togo à l'extérieur, les gens se sont préparés également pour dire, tel que les choses se sont passées, nous avons telle question à vous poser. C'est ce qui s'est passé. Quand on demande à un avocat hier du collectif Sauvons le Togo, maître, c'est les, comment elle
s'appelle, quel était son rôle?
Je ne savais pas.
Mais le statut.
Le statut. On n'en sait pas. C'est parce que, bon, il est dans l'opposition aujourd'hui. Il a préféré rejoindre le camp du Parti au pouvoir uni. Et qui dit que dans le bilan de 20 ans, qui parle de la piste, là où j'ai quitté tout à l'heure, la piste, là, c'est la piste là qui fait partie des bilans. Au moment où les gens parlent d'un certain nombre de projets, allez à Cotonou, vous allez voir. Mais c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, tout ce qui s'est passé là, moi, je ne sais pas comment ça, on peut essayer de convaincre les gens à l'extérieur avec tout ça. Mais les gens ont les informations et ils ont su que tout ce que les émissaires sont partis raconter sur les médias n'est que du faux.
Quand ils n'ont pas su convaincre?
Non. Quelqu'un parlait de la risée. Vous interrogez les gens Lomé un peu partout, même à l'extérieur. Vous voyez les réactions sur les médias. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le Togo est en face d'une situation de non-retour, qu'on le veuille ou non, mais les gens sont debout contre le régime. Ils sont fatigués, là. 58 ans, c'est beaucoup.
D'accord. Alors, nous allons donner la parole à nos auditeurs, puisqu'il est déjà midi. Le principe de l'émission, bien sûr, c'est de donner aussi la parole à nos auditeurs pour qu'ils s'expriment aussi sur les sujets débattus ici au Club de la Presse, 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir aussi. Vous pouvez nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90, 45, 78, 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5 Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur Gado. Comment vous allez?
Ça va très bien. Bonjour, plateau.
Oui, allez-y.
Bon, vous savez ce qui s'est passé sur les médias français? Moi, j'accuse l'entraîneur du gouvernement. Je dis bien l'entraîneur.
Parce que c'est qui l'entraîneur du gouvernement?
Bon, peut-être qu'il y en a, parce qu'on ne peut pas envoyer, on envoie toujours une équipe qui gagne. L'équipe qui gagne, c'est Bawara et Trimois. Les trois là ne jouaient pas. Pourquoi on a mis les deux là à la touche? Est-ce que vous avez pas vu Adebayo à la touche quand le Togo joue? C'est leur faute. Et maintenant, vous savez, les journalistes étrangers savent que la brutalité, c'est toujours côté du gouvernement contre le peuple. On le sait. Donc, un journaliste de 34, mais c'est des journalistes chevronnés. Les deux là ne sont pas bien entraînés. On ne veut pas les envoyer là-bas. On ne cherche pas une équipe qui gagne. C'est dommage. Merci, bonne journée.
Merci, M. Gado, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
Oui, votre nom?
Oui, c'est Matiba.
Hein. Ah, Matiba. Oui. Allez-y.
L'auditeur qui vient de parler qu'il fallait envoyer Trima ou bien Bawara. Vous savez, le mensonge au Togo, ça arrive même au ciel. Si c'est passé, ce n'est pas un hasard. On humilie notre pays ou pas, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, si, dans quel pays on ne sait pas, on ne connaît pas le Togo. C'est dans quel pays? Tous les pays du monde savent le mensonge depuis, 2000, depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui s'est passé là, même depuis fort longtemps, le mensonge. Est-ce que l'alternance, on n'a pas besoin? Maintenant, je viens sur ce qui s'est passé au Babono. Est-ce que les gens là, la nuit, ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont... Des fois, les gens se serrent les mains, tout ça là. Est-ce qu'ils ont lavé les mains avant de prendre les boules de ça? Des fois, il y a ça aussi. La nuit, bon, c'est dans le village, vous-même vous connaissez. Les gens vont, en même temps, quand ils voient ça, la dame va couper, tout ça, là, déposer là. Ils vont prendre, lécher bien les doigts, tout ça là. Alors qu'ils ont saisi peut-être certaines choses quelque part, c'est fini. Et que ce problème-là, le gouvernement doit prendre ça à bras le corps. C'est un truc très sensible.
D'accord.
Ça risque de dégénérer là-bas.
D'accord.
Donc, ils doivent faire tout et tout pour aller vite, pour amorcer ça. Sinon, les gens vont faire la guerre.
D'accord.
Okay, bonne émission.
Merci beaucoup, Natima, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô?
Oui.
Bonjour, Pélé.
Oui, bonjour, le plateau.
J'espère que vous allez bien.
Bon, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un là-bas, la communication, c'est de l'art, de la politique. Comme dira l'autre, la communication, c'est la mère de la politique. Je pense que les deux ministères qui sont partis du RPT Uni au nord du RPT Uni, je pense que leur actionner pour que la vérité se claque au pied du monde entier. Je pense que si vous voyez M. Gilles Benoît en de vie, au temps de fierté, la manière dont il s'exprime, c'est parce qu'il défend la cause noble. C'est pourquoi il s'exprime très bien. Mais quand tu es dans le mensonge, et tu vas bégayer, c'est ça le problème. Pour voir M. Paco Madiou, quand en 2011, il défendait Laurent Gbagbo, l'expression, la manière dont il s'exprime, c'est parce qu'il défendait une cause noble. Tout ça là, je pense que c'est une toilette d'alarme pour le régime RPT. M. Pognasco, le président, le PC, doit comprendre qu'on leur a tourné. Il faut qu'il change. Il faut qu'il change de mentalité. Ils ne peuvent plus aller avec leurs mensonges à quelque part pour peut-être convaincre ou bien vouloir dire qu'ils veulent convaincre quelqu'un. Parce que le RPT, il y a un réseau de mensonges. Vous voyez, c'est un réseau de mensonges. Ils ne peuvent venir vendre quelque chose à un seul que vous ici. Leur pourcentage, leur taux de pourcentage, c'est moins de 10%. On les a sauvé ça déjà. Actuellement, ils sont moins de 5% de la population. Qu'est-ce qu'ils veulent encore?
D'accord, merci beaucoup Pélé, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne et qui doivent aussi s'exprimer sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Oui, grand-père, bonjour.
Bonjour Benoît, comment vous allez?
Je vais mieux.
D'accord, allez-y.
Bonjour le plateau. Il paraît que les ministres, ils se sont trompés. Comment je dis ça, de la télévision ou bien de la chef. Le monde est petit. Ce n'est pas sous l'impulsion du chef de l'État que les France 24 ou bien les TV5 qui vont faire. La communication, c'est, vous l'avez fait de l'art. Même Jésus, quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller vers Jésus, qui vont attendre encore, c'est lui le Messie ou bien c'est lui, on va entendre encore quelqu'un d'autre. Jésus a dit, regardez ce que je fais et allez lui dire ça. Ce n'est pas la bouche qui fait les choses. Au lieu d'être, comment dire, non. Parce qu'on donne ce qu'on a. Le PSG, le club parisien, là, ce n'est pas au moment où il avait Messi, Mbappé, Neymar. Quel coup ils ont eu. C'est la technique, c'est le travail. Merci et bonne journée.
Merci Benoît et bonne journée à vous aussi. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour. Monsieur Mahouto.
Oui, monsieur Mahouto. Allez-y.
Salut le plateau.
Oui, salut.
Vous savez, aucun message n'est passé. Parce que vous ne pouvez pas endeuiller les familles et aller mentir là-bas. Là. Ce qui s'est passé là-bas, c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que monsieur Adjon, lui, il a fait le droit en France. En fait, on dit que le droit, on ne ment pas. Lorsque vous mentez, ça va vous rattraper. Mais maintenant, il veut mentir. Il n'a pas pu expliquer ce qui s'est passé. C'est un mensonge. Donc, pour vous dire que ce qui a dit là-bas que le médecin est passé, aucun médecin n'est passé. Merci, bonne émission.
Merci, M. Mauto, pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 sur 315. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
On me fait savoir que l'entraîneur, c'est celui qui les a autorisés à aller là-bas. C'était le PC. C'est lui qui signe les passeports pour sortir. Bon, c'est lui, sûrement, il a fait une erreur. Merci, bonne journée.
Merci pour votre intervention, M. Gado. 90 86 35 35 91 36 63 115. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est Sylvain.
C'est Sylvain.
Oui, Sylvain, allez-y.
Bon, de toute façon, c'est lui qui privilégie les chaînes internationales. Voilà les conséquences. C'est qui a commencé par ici, vous les journalistes de Volain. Il a commencé par les médias de Volain. Il peut s'entraîner. Il va directement à l'étranger. Ces messieurs sont bien préparés pour les questions. Voilà les conséquences. Nous, on souhaite même que ces ratés se multiplient, se répètent, pour qu'on connaisse un peu la face du second à l'étranger. Et franchement, bon, on ne peut que apprécier ce qui s'est passé. Et pour ce qui concerne l'histoire, l'intoxication alimentaire après tout, même certains microbes, quand vous chauffez l'eau à 100 degrés, ils sont contents, ils sont à l'aise. C'est que ce qu'on mange, ce qu'on prépare, comment ça se prépare. Il faut un service d'hygiène. Avant, comme l'autre vient de le dire, la police, il y a une police pour ça. Maintenant, tout est laissé à la boue, on mange ce qu'on ne voulait pas manger, alors que ce qui rentre ne sort pas. Ça pose toujours des dégâts avant qu'on ne le sache. Bon, bonne émission quand même.
Merci Sylvain pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur, 90 86 35 35. Allô? Allô, bonjour. 90 86 35 35 91 36 ou 315. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça ne va pas.
Votre nom c'est?
C'est Komi.
Ah, c'est Komi?
Oui.
Mais Komi, ça fait longtemps. Hein?
Oui. Est-ce que ça ne va pas?
D'accord, ça va.
Quand on dit que ça ne va pas, les gens ne comprennent pas. Premièrement, l'Internet, ça fait plus de un mois qu'on a touché ça. Vous voulez qu'on s'énerve de plus? Je ne sais pas ce qu'on veut. Monsieur Gabriel, bonjour. Merci pour tes efforts. Prenons acte des observations. Nous ferons l'essentiel.
D'accord.
Maintenant, sur le débat, moi, j'aimerais interpeller les journalistes togolais aussi qui mentent, qui viennent chez vous ici pour mentir. Et quand on veut les interpeller, vous nous dites que c'est leur liberté d'expression. On ne peut pas avoir un pays dans lequel les gens mentent en longueur de journée. Sur le fait, les gens mentent. Et on prend le mensonge, c'est-à-dire, c'est devenu, les gens l'appellent l'art. Vous mentez, vous dites que c'est l'art. On fait qui est têtu. Vous êtes présent, on vous demande le compte rendu, vous mentez. Moi, j'aimerais interpeller seulement les journalistes. Ceux qui viennent chez vous ici, c'est ça qui a fait que je n'ai plus même le courage d'appeler. Bonne émission.
D'accord. Merci, Monsieur Kokou, pour votre intervention. Ce qui est sûr, vous avez eu ce courage d'appeler encore aujourd'hui. Merci. Monsieur Kokou, c'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer sur l'actualité telle que nous aimons le dire, c'est le principe de l'émission. Et parce qu'il faut donner la parole à tout le monde.
Oui, nous avons écouté les auditeurs. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une situation qui est très grave, c'est-à-dire que le régime qui est là souffre donc de légitimité. Et regardez un peu donc le verbe qu'utilisent donc les Togolais. Ils disent que les gens mentent. Vous voyez, ils ne sont plus dans la judie. Non, ils disent des contre-vérités. Non, ce qu'ils disent n'est pas vrai. Mais ils disent, ils mentent. Des ministres qui sont là, ils mentent. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus d'égard à ces personnes-là. Maintenant, ceux qui sont allés circulent sur les chaînes françaises depuis un moment. C'est quelle équipe d'abord? C'est quelle équipe? Oui, on dit qu'ils ont besoin d'être entraînés par le... Bon, si ce n'est pas le PC, on estime que c'est une délégation ministérielle. Maintenant, si on doit dire une délégation ministérielle, il y a là, on doit dire qu'il y a un élément qui est parmi cette équipe-là, qui n'est connu des Togolais que quelqu'un qui a milité autant donc, du CST et qui insultait le régime. Je parle donc de Maître Gilles Benoît Afakbedi. Hein, on a encore les cassettes et on a, nous avons tout ce qu'il a dit hein, contre le régime, on le sait. Maintenant, voir ce monsieur à côté donc, d'un ministre qui est en charge donc, des institutions de la République. Je parle donc de Pacôme. Pacôme, c'est un ministre qui est connu au Togo. Maintenant, le monsieur qui est à côté, Gilles, qui dit, oui, le gouvernement, nous, quand il dit nous, là, il parle de qui? D'abord, qui dit nous, il parle de qui, enfin, en tant que qui?
Quel est, statut?
Quel est son statut? Voyez-vous? Alors, si, bon, je ne sais pas si c'est, bon, j'estime que si c'est le ministre, oui, bon, lui, il peut avoir donc... bénéficier donc de l'argent du contribuable, il peut voyager au nom du Togo, des Togolais, oui, c'est un ministre de la République. Maintenant, si c'est le cas et que Gilles aussi se retrouve dans cette équipe, donc lui, il est là en tant que qui? Si c'est, on estime, bon, nous n'avons pas de preuves pour l'instant, mais si c'est les Togolais qui ont fait déplacer cette délégation, mais s'il revient, lui, il doit rembourser au Togolais, oui, parce que là, on ne le connaît pas. Bon, on le connaît, attaque avocat. Bon, et après, on a vu la transhumance. Il a dit sur une radio que seuls les imbéciles ne changent pas, puisque lui n'en est pas un. Donc, il a changé.
D'accord.
Donc, voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on envoie tout le monde au nom du Togo. Mais parce que les prestations, là, c'est, ils ont versé donc, le visage du Togo par terre. C'est ça.
D'accord. Okay. Essaye.
Non. Ma philosophie elle est la même, pas de commentaires sur les avis des auditeurs, juste les remercier. Mais je voudrais un peu abonder dans le même sens que celui qui a parlé d'Internet. C'est vrai que depuis quelques semaines déjà, il y a ce problème d'Internet qui devient de plus en plus récurrent et ça rend un peu complexe. Il y a certains de nos concitoyens qui aujourd'hui mènent leur petite vie grâce à Internet, à travers les ventes en ligne et tout ça, là, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Donc, il faut voir la situation et rapidement régler c'est la situation en question. Maintenant, l'autre chose, je voulais attirer l'attention sur l'éclairage public. Au niveau de certaines routes, il y a l'éclairage public qui fait défaut et qui a été à la base d'un accident la fois passée sur la route du contournement. C'est pas du tout agréable à voir. Du coup, je crois qu'il faut interpeller les différentes structures chargées de ces missions-là pour assurer l'éclairage public sur les routes.
C'est des fois, il y a les lampadaires,
qui ne s'allument pas exactement. Si les routes sont bien faites et que l'éclairage fait défaut, je crois qu'on n'a pas encore trouvé toutes les solutions pour des questions accidentogènes. Donc, prière vraiment de régler ce problème-là.
D'accord, merci Estelle. Oui, Abbas.
Non, pas grand-chose à dire parce que je voulais seulement souhaiter un joyeux anniversaire à la radio Canal FM.
Merci beaucoup.
C'est pas facile de tenir. La radio tient.
Merci.
Depuis qu'on appelle ça vers. Vous avez commencé au niveau de.
Oui, Tocoin.
Tocoin.
Oui.
Revenir vers.
Décon sur le boulevard.
Si, donc je pense que c'est. Ça, quand ça tient, il faut aussi féliciter.
D'accord, merci beaucoup, Abbas.
Il faut dire que, comme nous sommes en période de fête traditionnelle également, je pense qu'il faut inviter les uns les autres à respecter leurs traditions, leurs cultures. Juste après, Ibarra, nous sommes en plein.
À Isan,
c'est au Dantou, et la fête des Inyama Bassa.
D'accord, également. Merci beaucoup, Abbas. Oui, Justin.
Non, en écoutant les uns les autres, vous devinez que les Togolais ne sont pas dupes aujourd'hui. Donc on peut chercher à tromper les gens à un moment donné, mais pas éternellement. Je crois que le sujet sur lequel on a échangé tout à l'heure, débattu, repose la problématique de la moralité ou de la moralité de la vie publique dans un premier temps et de la moralité aussi individuelle. Ce qui m'amène peut-être à interpeller les premiers décideurs de la République sur la formation du prochain gouvernement. il faut faire tellement l'enquête de moralité sur des personnes qu'on envoie pour parler au nom du Togo ou au nom des Togolais. Ça s'impose. Je finis peut-être en partageant l'avis d'un auditeur tout à l'heure. Les évêques nous ont interpellés là-dessus. Mais toujours est-il que on fait fi de ne pas attendre. On nous a demandé de dire la vérité au peuple. Rien que la vérité.
D'accord.
Mais on a pris l'habitude maintenant de mentir. Et on ment. Et tout le monde sait maintenant qu'au Togo, le mensonge est devenu... c'est pas un sport, c'est devenu habitude. C'est devenu maintenant une pratique qui en réalité devait être anormale.
La culture du mensonge.
La culture du mensonge.
Merci beaucoup, Justin. Merci à Justin Anani, qui est, je rappelle que vous êtes journaliste et vous collaborez avec beaucoup de journaux. Merci à Sylvestre Béni, directeur de publication du journal La Manchette. Merci à Estelle Koudzonou, directeur de publication du journal La Gazette Info, Gazelle Info. Merci. Et merci à Abbas Issaka d'être passé justement dans cette émission. Vous êtes directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi pour vos différentes contributions à ce débat. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akoutia a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Ossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.